les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Jan Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 5. Mais il n'avait pas fait deux pas qu'il s'arrêta soudain, cloué au sol. Au-devant de lui, un groupe de rats approchait. Ils étaient tous gros et gras comme lors d'une année de bonne récolte. Leurs silhouettes noires brillaient à l'ombre d'un mur à l'entrée du village, et leurs yeux inquiets scrutaient l'intérieur du village, fixaient l'homme et son chien. À cet instant, l'aïeul entrevit brusquement l'issue d'un long tunnel. Il se mit à rire. C'était la première fois que cela lui arrivait depuis le départ des villageois. Son rire éclatait comme des haricots que l'on fait sauter à feu doux, rauque et sonore. Il dit « Alors le ciel mourrait, la terre mourrait, et moi aussi, l'aïeul, je mourrais de faim ?» Il s'avança, guidant son chien à la rencontre des rats effrayés. Il dit « L'aveugle, sais-tu où sont cachés les grains ? Moi, je sais, moi, l'aïeul, je sais !» Cette nuit-là, il se rendit au champ, retourna la terre de 3 trous à rats d'où il sortit un dixième de boisseau de grains de maïs. Il passa la première moitié de la nuit à dormir dans la cabane, d'un sommeil léger jusqu'à l'heure la plus noire, lorsque seule la lumière de la lune éclaire le sol. Il ordonna au chien de veiller près du pied de maïs et se rendit seul jusqu'au milieu d'un champ dont il avait fouillé la terre sans dénicher le moindre grain. Il s'assit là, retenant sa respiration, immobile. Il demeura ainsi silencieux pendant une heure, puis entendit les couinements. Si ce n'étaient pas des cris de joie, c'étaient des cris de lutte. Les rats se battaient pour la nourriture. Il colla l'oreille contre le sol, tentant de localiser leur position. Ensuite, à l'emplacement qu'il avait déterminé, il enfonça un pieu en guise de marque. Il s'en fut chercher sa houe et revint creuser à 1 mètre de distance autour du pieu, à 1/3 de mètre de profondeur. Il y avait forcément là une galerie creusée par les rats. De fait, il y découvrit une bonne quantité de grains, de quoi remplir un grand bol. Il n'en laissa aucun, ramassa même ceux qui étaient mêlés aux excréments des rongeurs. Puis il se rendit dans un autre champ dont il avait retourné la terre sans succès et procéda exactement de la même manière. Durant une assez longue période, les journées de l'aïeul furent ainsi bien remplies. Il se levait tôt pour aller au village tirer le matelas ouaté du puits. Il revenait au champ prendre un petit déjeuner, puis triait les grains parmi les excréments de rats, les mettait dans un bol. Le bol, une fois rempli, il l'enfouissait sous terre, à côté de son pied de maïs. Après le déjeuner, une sieste s'imposait. Au-dessus de la cabane, le soleil dardait ses rayons durs et le sol était encore plus brûlant. Parfois, une légère brise tiède soufflait. Il dormait profondément jusqu'à ce que l'horizon rougeoie à l'ouest des montagnes. Il retournait alors au village chercher un demi-seau d'eau et la nuit tombait. Après le dîner, il s'asseyait avec son chien près du plan, goûtant la fraîcheur de la nuit dans le silence inquiétant. Il adressait au chien et aux pieds de maïs les questions qu'il avait à l'esprit. Par exemple, pourquoi les cultures sur pied ne voient leurs feuilles pousser qu'une par une ? Ni le chien, ni la plante n'étant en mesure de répondre, il allumait sa pipe, en tirait de longues bouffées, disait « Il vaut mieux que ce soit moi qui vous le dise. C'est parce que ce sont des cultures sur pied, alors leurs feuilles doivent pousser une par une. Et parce que les arbres sont des arbres, leurs feuilles poussent deux par deux. » Certains soirs, à la faveur d'une douce brise, il posait des questions bien plus profondes. Il disait « Vous savez quoi ? Quand le chef du village était encore en vie, un homme est venu, un certain chercheur. Il a dit que la terre tournait, que chaque tour correspondait à une journée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il ne racontait pas des balivernes ? Si la terre tourne, alors pourquoi ne tombe-t-on pas du lit la nuit ? Pourquoi l'eau des jarres ne se renverse-t-elle pas ? Pourquoi l'eau du puits ne remonte-t-elle pas ? Et pourquoi marche-t-on la tête vers le ciel ? D'après cet homme, c'est parce que la terre nous aimante. Mais pensez donc, si la terre nous aimante, alors pourquoi arrive-t-on encore à lever les pieds pour marcher ? Lorsque l'aïeul traitait d'une question aussi complexe et obscure, son visage prenait une expression extrêmement sérieuse et il en oubliait de fumer sa pipe. Finalement, le doute s'exposait au grand jour devant le chien et le pied de maïs et l'aïeul s'étendait dans le champ, le cœur plein de regrets. La tête parallèle au ciel, laissant la lune baigner son visage, il disait « J'ai trop ménagé l'honneur de ce savant. Il est resté 3 jours et je ne suis pas allé l'interroger une seule fois. J'avais peur qu'il perde la face devant tout le village. » Il dit « C'est grâce à son savoir qu'il se débrouillait pour vivre. Je ne pouvais quand même pas lui enlever le pain de la bouche. » Le jeune maïs ressemblait à un mât. Ses feuilles, aussi larges que la paume d'une main, se dressaient les unes au-dessus des autres, les plus hautes dépassant déjà de 2 têtes le carré de natte. La nuit, leur bruissement était devenu rauque et sourd. Encore quelques jours, et la plante atteindrait sa taille définitive. Pour pénétrer plus facilement sous l'abri qu'il lui avait confectionné, l'aïeul démonta une natte. 7 jours auparavant, il était venu comparer sa propre taille à celle du maïs. La plante atteignait alors la hauteur de son cou. 2 jours après, elle lui arrivait à hauteur du front. Ce jour-là, il compara de nouveau sa taille à celle de la culture pour s'apercevoir qu'elle dépassait la pointe de ses propres cheveux. Il pensa « Encore 15 jours et du sommet devrait pendre un épi » et dans 3 mois, l'épi sera mûr. » L'aïeul pensa que sur cette chaîne de montagnes dénudées, il avait fait pousser du maïs, qu'il en décortiquerait l'épi pour remplir un bol de grains, des grains aussi précieux que des perles, dont les villageois pourraient se servir comme de semences lorsqu'ils reviendraient, lorsque la sécheresse aurait cédé la place à la pluie. Alors, les saisons se succéderaient et sur cette chaîne montagneuse, on verrait de nouveau une immense étendue verte, des champs et des champs de maïs à perte de vue. Quand je mourrai, ils mettront une plaque sur ma tombe, une plaque en mon honneur, en souvenir de ma bonne œuvre. L'aïeul se parlait à lui-même, disant « Oui, j'ai vraiment accompli une bonne œuvre », et se disant tout à son aise, il commença à rêver, ou plutôt il continua, mais en silence cette fois. Il sortit de la cabane, descendit la pente jusqu'à l'endroit où il avait creusé, à côté du pied de maïs, et se remit au travail. Dans le calme de la nuit, la houe rendait un son clair et monotone, un air populaire joué en solo dont la modulation se répercutait de loin en loin. Ayant fini de creuser là, il n'alla pas se coucher, mais, outil sur l'épaule, se rendit dans un autre champ, où il retint sa respiration afin de trouver du grain dans un terrier de rats. En se réveillant le lendemain matin, il découvrit le bol, encore vide la veille, rempli de grains et d'excréments. Il se tint un long moment à côté, perplexe. Accroché au pilier de la cabane, le sac de nourriture était empli à moitié, ce qui dissipait complètement tout tracas. 3 jours auparavant, alors que l'aïeul faisait la sieste, le chien l'avait brutalement réveillé par ses aboiements. Tirant sur son vêtement, il l'avait conduite à l'angle d'un champ à quelques dizaines de pas de la cabane. Là, l'aïeul avait découvert un trou à l'intérieur duquel il avait ramassé une bonne poignée de grains. De retour à la cabane, il les avait pesés. Il y en avait 225 grammes. Le chien était donc capable de dénicher les terriers. Il tournait dans un champ avec son air stupide, flairant le sol, et lorsqu'il en détectait un, il se mettait à aboyer joyeusement vers le ciel. Le sac de grains se gonfla très rapidement. L'aïeul n'avait plus besoin de se cacher la nuit dans les champs tout en retenant sa respiration. Il lui suffisait d'y conduire le chien, et les terriers ne manquaient pas d'apparaître sous sa houe. L'un d'entre eux, cependant, se révéla vide. De toute façon, il y avait du grain en surplus. En quelques jours, le sac avait été rempli à ras-bord. L'aïeul dormait sur ses 2 oreilles. Il avait oublié qu'il lui fallait rapidement découvrir tous les terriers. Il ignorait que les rats avaient cessé de chercher les semences pour les amasser dans leurs trous. Les aboiements du chien et la houe les avaient effrayés. Ils s'étaient mis à consommer leurs grains, comme s'ils faisaient une compétition avec l'homme. Un jour, alors que le soleil semblait bien plus proche qu'avant, que sur toute la chaîne montagneuse la terre était devenue une plaque de fer brûlante, l'aïeul, ne trouvant pas le sommeil, décida de peser ses grains. Il prit la balance, l'installa dans un endroit ombragé pour en peser le plateau. Celui-ci faisait 50 grammes. Mais le pesant de nouveau au soleil, il s'aperçut qu'il fallait alors compter 60 grammes. Désorienté, l'aïeul s'installa en plein soleil. Le plateau faisait 62,5 g. Abasourdi, l'aïeul comprit que les rayons appuyaient sur le plateau. Il courut jusque sur l'arête de la montagne et renouvela sa pesée. Cela faisait 65,5 g. En soustrayant le poids du plateau, on obtenait 15,5 g pour les seuls rayons solaires. Il courut successivement sur 4 arêtes montagneuses, chacune plus haute que la précédente. Sur la plus haute, le poids du soleil équivalait à 26,5 g. Il ne cessa plus, dès lors, de peser la lumière. Au lever du soleil, les rayons dispensés autour de la cabane faisaient 10 grammes. L'après-midi, plus de 20 grammes. Tandis qu'au coucher du soleil, il ne pesait de nouveau plus que 10 grammes. Il pesa aussi le bol et les seaux. Un jour, alors qu'il pesait l'oreille du chien, celui-ci remua et l'homme reçut le plateau de la balance en plein visage. Il frappa violemment la tête du chien. Quand l'aïeul songea à peser bol par bol le contenu du sac de grains, cela faisait déjà 4 jours qu'il avait passé à évaluer le poids des rayons solaires. Il ne restait plus grand-chose dans le sac, en tout cas pas de quoi peser séparément des bols de grains. L'aïeul se sentit un peu hébété. Il ne restait plus pour lui et l'aveugle que de quoi manger pendant 2 semaines. C'est alors seulement qu'il se rendit compte que plusieurs jours s'étaient écoulés sans qu'il cherche de terrier. Comment aurait-il pu prévoir qu'il était déjà trop tard ?